Chapitre 52. Un des porte-paroles approcha et saisit rageusement Richard par les pans de sa chemise.
« Tu es responsable de cette catastrophe, sauvage, maudit étranger. Que connais-tu de la lumière? C'est toi qui as répandu des idées impies parmi nous. »
Le type faisait de son mieux pour secouer Richard et le pousser hors de la salle.
« Tu as exposé mon peuple à la séduction de la violence. »
Le sourcier prit les poignets du porte-parole, lui retourna les bras dans le dos et le força à tomber à genoux. Se fichant des couinements de douleur de sa victime, Richard répondit d'un ton glacial à ses accusations.
« Nous avons risqué notre vie pour aider ton peuple. Les Bandakars ne sont pas plus près de la lumière que n'importe qui. Maintenant, vous allez nous écouter. Ce soir, l'avenir de votre empire va se décider. »
Richard lâcha le porte-parole, le poussa contre le mur, puis tourna la tête vers la porte.
« Kara, va voir Tom et aide-le à faire venir ici tous les résistants. Ils ont le droit d'assister à ce qui va suivre. »
Alors que la mort de Sith partait au pas de course, Richard ordonna à tous les porte-paroles de s'aligner contre le mur du fond.
« Vous n'avez pas d'ordre à nous donner !»
s'indigna un des hommes.
« Vous êtes les chefs de l'Empire Bandakar !» répondit le sourcier. « L'heure est venue d'assumer vos responsabilités. »
Des résistants entraient déjà dans la salle chichement éclairée. Quelques minutes plus tard, tout s'était arrivé. Le sous-sol était assez grand pour que les hommes de Owen y tiennent sans problème. Kallan remarqua même qu'ils étaient accompagnés d'hommes et de femmes qu'elle n'avait jamais vus. Connaissant les Bandakar et Kara qui les avait laissés entrer, l'inquisitrice conclut que ces nouveaux venus ne représentaient pas une menace. Richard désigna Owen et ses compagnons, puis il s'adressa au porte-parole.
« Ces hommes de Witherton ont su voir la vérité en face. Ils refusent que leur peuple continue à souffrir de la tyrannie. Fatigués d'être des victimes, ils ont choisi la liberté. »
Un porte-parole au menton comiquement pointu eut un rictus méprisant et répliqua aussitôt
« La liberté est un leurre. Elle autorise simplement les gens à être égoïstes. Un être intelligent et dévoué au bien et à l'édification de l'humanité doit rejeter ce concept immoral. La liberté, c'est la dictature de l'égocentrisme. »«
C'est la vérité, »
renchérit un autre porte-parole.
« Des convictions si simplistes peuvent uniquement ouvrir un nouveau cycle de violence. » La prétendue liberté incite les gens à voir les choses tout en noir ou tout en blanc. Une morale si radicale conduit au désastre. Les individus n'ont pas le droit de juger les autres, et moins encore de les condamner. La paix repose sur le compromis entre toutes les parties concernées et...
Le compromis,
l'interrompit Richard.
Un cycle de violence est possible exclusivement lorsqu'on traite tous les êtres, y compris les démons, sur un pied d'égalité. Ou, en d'autres termes, quand on décrète que tout le monde a le droit d'exister, même les criminels qui consacrent leur vie à nuire aux autres. En refusant de combattre le mal, vous lui conférez une légitimité et un pouvoir qui lui permettront de vous détruire. Vous savez à quoi revient le compromis dans ce contexte? À se couper d'abord un doigt, puis un bras et enfin une jambe pour nourrir des monstres. Le mal vampirise le bien. Tuez les monstres et la violence cessera. Deux possibilités s'offrent à vous. D'abord, vivre à genoux, mort de peur, en vous excusant sans cesse d'exister et en consentant de plus en plus de sacrifices pour apaiser le mal, ou éliminer les oppresseurs, conquérir votre liberté et rester vigilant dès que quiconque la menace.
Un des porte-paroles, les yeux écarquillés de fureur, pointa un index sur Richard.
Je te reconnais à présent. Tu es celui dont parle la prophétie? Le destructeur des Bandakar.
Des murmures nerveux coururent dans l'auditoire. Richard regarda ses résistants, puis se tourna de nouveau face au porte-parole.
« Je me nomme Richard Rall, et vous avez parfaitement raison. Je suis celui qui vous détruira et vous sauvera. Cette prédiction parle bien de moi. Mais si je n'étais pas venu, un autre aurait joué mon rôle l'an prochain ou dans 10 siècles. » Parce que cette prophétie évoque simplement le retour vers la vie d'un peuple tout entier. Les Bandakar furent bannis parce qu'ils refusaient de voir la réalité. J'ai en effet mis un terme à cette cécité volontaire.
Richard désigna de nouveau ses résistants.
Ces hommes ont choisi de regarder la vérité en face. Aujourd'hui, tous les bandakars doivent se décider. Veulent-ils rester aveugles ou recouvrer la vue? La prophétie au sujet du Sauveur, qui est aussi un destructeur, vous promet un avenir meilleur. Votre façon de vivre touche à sa fin, c'est vrai. Il est temps que vous cessiez d'entraver les individus, de les forcer à se dévaloriser, d'écraser leur esprit. Au fil des siècles, les meilleurs d'entre vous ont quitté l'Empire pour échapper à cette tyrannie de la médiocrité. L'heure est venue d'en finir avec le règne de la grisaille. Les soldats de l'ordre ont envahi votre pays, mais en fait, cette agression n'a rien changé. Leur violence est plus visible que la vôtre, dont toute la subtilité consiste à étouffer discrètement ses victimes. L'ordre ne vous a pas détourné de votre cécité, bien au contraire. Mais il vous exploite et pour ça il n'hésite pas à vous brutaliser. J'ai apporté la lumière de la vérité aux hommes qui combattent avec moi. Ce faisant, j'ai effectivement détruit leur ancien mode de vie. Tous les autres bandakars doivent aujourd'hui trancher en faveur de la lumière ou de l'obscurité. Quant à moi, je reste le sauveur et le destructeur de votre peuple. J'ai montré aux bandakars qu'ils pouvaient voler de leurs propres ailes et obtenir ce qu'ils désirent vraiment. En agissant ainsi, je les ai aidés à se réapproprier leur vie. Dans le processus, j'ai détruit les mensonges sur lesquels reposait leur aliénation, mais cette œuvre salvatrice leur a rendu leur noblesse d'esprit. C'est ce que veut dire votre prophétie. À présent, chacun d'entre vous peut choisir de saisir l'occasion au vol ou de se murer dans les ténèbres. Si vous optez pour la lucidité, rien ne garantit que vous triompherez au bout du compte. Mais si vous n'essayez pas, votre défaite sera consommée et des temps bien sombres vous attendront. Si vous préférez continuer d'ignorer le mal ou de l'apaiser quand il y a urgence, vous découvrirez que la lâcheté a un prix. En général, on n'y laisse pas moins que son âme.
Richard se détourna des porte-paroles. Juste avant qu'il ferme les yeux pour les masser du bout de ses doigts, Callan lut dans son regard qu'il souffrait comme jamais. Il fallait partir à la recherche du dernier flacon. Ensuite, Nietzsche les aiderait à venir à bout des migraines provoquées par le don. Sinon, Richard était condamné. Callan en avait la certitude. Parfois, il lui semblait que son mari avait glissé dans un gouffre et qu'il se retenait du bout des doigts à des racines humides qui lui échappaient inexorablement.
« Honorable porte-parole, » intervint Owen, « ne devons-nous pas chercher à savoir ce que pense le sage de tout cela ? Si une telle crise ne justifie pas qu'on ait recours à lui, pourquoi existe-t-il ? Notre avenir est en jeu, ne l'oubliez pas. Faisons venir le sage et écoutons ce qu'il a à nous dire. »
Ayant pris note des murmures approbateurs qui couraient dans la salle, les porte-paroles formèrent un cercle serré et conférèrent à voix basse. Quand ils eurent fini, la moitié passa dans une arrière-salle.
« Le sage tranchera puisqu'il le faut, » dit un vieux porte-parole au crâne rasé.
Callan remarqua le sourire hautain du personnage. Elle avait si souvent vu ce genre de comportement chez des politiciens corrompus.
« Devant des représentants du peuple, nous ferons entendre vos blasphèmes au sage, et il en finira avec toutes ces absurdités. »
Plusieurs porte-paroles ressortirent, les bras lestés de bouts de bois de diverses formes, recouverts de velours rouge. Devant la porte de l'arrière-salle, ils commencèrent d'assembler une sorte de trône, surmonté d'un toit en draperie rouge. Quand ils eurent terminé, ils posèrent un épais coussin sur le siège, puis tirèrent les tentures rouges conçues pour clore l'étrange temple portable. D'autres hommes déposèrent de chaque côté de la structure une table basse sur laquelle brûlaient des dizaines de petites bougies. En quelques minutes, les porte-paroles avaient installé un temple très simple mais néanmoins impressionnant. Dans les contrées du milieu, beaucoup de peuples magiques révéraient des êtres tels que le sage. Ces devins avaient en général des assistants, la fonction que tenaient ici les porte-paroles. Callan n'avait jamais sous-estimé ces chamans, incontestablement liés au monde des esprits. Certains d'entre eux exerçaient une influence très réelle sur leur peuple, et ils avaient des pouvoirs parfois redoutables. Mais comment des piliers de la création pouvaient-ils avoir parmi eux un chaman capable de communiquer avec les esprits ? Si le sage avait un authentique pouvoir et qu'il tranchait en faveur de l'ancien mode de vie, tous les efforts de Richard auraient été vains. Les porte-paroles se placèrent de chaque côté du temple. Puis l'un d'eux écarta légèrement la tenture frontale, à peine assez pour qu'on pût voir à l'intérieur de l'étrange trône. Un gamin en tunique blanche était assis en tailleur sur le gros coussin. Les mains pieusement croisées, il portait un bandeau noir sur les yeux.
« Il n'a même pas 10 ans, » souffla Richard.
« Seul un enfant est assez innocent pour atteindre la véritable sagesse, » dit un porte-parole, outragé que l'intrus ait osé parler en présence du sage. « En vieillissant, nous laissons nos expériences prendre le dessus sur nos intuitions, et nos sens corrompus nous conduisent à de fausses conclusions. Mais nous gardons au fond du cœur le souvenir du temps où notre esprit n'était que pure sagesse et profonde compréhension du monde. Voilà pourquoi nous vénérons le sage. »
Tous les bandakars présents approuvèrent du chef cette déclaration. Richard échangea un regard inquiet avec Callan. Un porte-parole s'agenouilla devant le temple et inclina son crâne rasé.
« Grand sage, nous avons besoin de tes lumières. Certains d'entre nous veulent s'engager dans une guerre. »
« Les guerres ne résolvent rien, »
dit immédiatement le sage.
« Ne veux-tu pas connaître les motivations de ces hommes ?»«
Rien ne peut justifier la violence. La guerre n'est jamais une solution. En revanche, c'est un aveu d'échec. »
Les résistants et les autres bandakars présents dans le sous-sol reculèrent comme s'ils étaient gênés d'avoir dérangé le sage pour lui poser une question dont il venait en quelques mots de démontrer la stupidité.
« Comme toujours, ta sagesse est sans faille, » dit le porte-parole. « Quel fou oserait s'écarter de cette vérité ?»
Il inclina de nouveau la tête.
« Nous avons tenté de dire à...
« Pourquoi portes-tu un bandeau ?»
coupa soudain Richard.
« J'entends de la colère dans ta voix, »
répondit le sage.
« Rien ne pourra être accompli si tu n'étouffes pas ta haine. Cherche avec ton cœur, et tu trouveras un peu de bien chez chaque être vivant. »
Richard plaqua une main dans le dos d'Owen pour le forcer à avancer. Tendant un bras, il saisit Hanson par le devant de sa chemise et l'entraîna avec lui. Tous les trois s'arrêtèrent devant le temple, mais Richard fut le seul à ne pas s'agenouiller. Du bout d'un pied, il obligea le porte-parole à s'écarter.
« J'ai demandé pourquoi tu portais un bandeau, » rappela Richard.
« La place que n'occupe pas la connaissance est laissée libre pour la foi. C'est à travers la croyance qu'on appréhende la réalité. Donc il convient de croire avant d'être autorisé à voir. »
« Si tu crois sans connaître la réalité, » objecta Richard, « tu es un aveugle volontaire, pas un sage. Pour apprendre et comprendre, il faut vivre les yeux grands ouverts. »
Les résistants qui entouraient Callan parurent troublés que Richard ose parler ainsi au sage.
« Renonce à la haine, sinon elle dévorera ton âme. »
« Nous parlons de connaissance et de perception de la réalité. T'ai-je posé une question sur la haine ?»
Le sage inclina humblement la tête.
« Le savoir ultime est autour de nous, mais nos yeux nous aveuglent, nos oreilles nous rendent sourds et nos pensées accentuent notre ignorance. Nos sens nous abusent. Le monde physique ne peut rien nous apprendre sur la véritable nature de la réalité. Pour s'unir à la vie, à son essence même, il faut d'abord regarder à l'intérieur de soi et refuser de s'arrêter aux apparences qui nous aliènent. »
Richard croisa agressivement les bras.
« Bref, j'ai des yeux, mais je suis aveugle. J'ai des oreilles, mais je suis sourd. Et mon cerveau ne m'est utile à rien. »
« Le premier pas vers la sagesse est d'accepter que nous sommes incapables d'appréhender la réalité. Rien de ce que nous pensons connaître n'est réel. »
« Pour vivre, nous devons manger. Tu es d'accord, je pense. Comment chasser un cerf, par exemple? En se bandant les yeux? En s'enfonçant de la cire dans les oreilles? En dormant afin de ne pas impliquer l'esprit dans cette traque ?»«
Nous ne mangeons pas de viande, »
répondit le sage.
« Il est injuste de faire souffrir des animaux pour satisfaire notre voracité. Nous n'avons pas plus de droit à l'existence qu'un cerf. »
« Donc vous mangez des légumes, des œufs, du fromage.
C'est ça, oui.
Comment fabriques-tu du fromage?
Dans le silence gêné qui suivit, quelqu'un toussota nerveusement.
Je suis le sage, et je n'ai pas à me charger de ce travail. D'autres le font pour que les bandakars se nourrissent.
Je vois. Tu ne sais pas comment fabriquer du fromage parce que personne ne te l'a appris. N'est-ce pas parfait?
Tu es assis là, un bandeau sur les yeux, l'esprit libre de toute connaissance superflue sur la réalité du fromage.
Alors, comment en fabriques-tu? T'es-elle soufflée par le génie que te confèrent tes divines introspections d'aveugle?
La réalité ne peut pas être appréhendée.
Essayons autre chose.
Avec un bandeau sur les yeux, de la cire dans les oreilles et des gants épais sur les mains, pourrais-tu aller ramasser un radis si tu crevais de faim?
Allons, je me sens d'humeur généreuse ce soir. Oublions la cire et les gants.
Garde le bandeau et viens avec moi cueillir un radis.
Je t'aiderai à trouver la porte. Ensuite, tu devras te débrouiller seul. Allez, viens avec moi.
Eh bien, je...
Si tu t'interdis de voir, d'entendre et de toucher, comment cultiveras-tu de quoi te nourrir? Ou simplement, comment cueilleras-tu des fruits?
Si rien n'est réel, combien de temps te faudra-t-il pour mourir d'inanition en attendant sur tes fesses que ta vérité intérieure te remplisse l'estomac?
Un porte-parole bondit et tenta de pousser Richard en arrière. Loin de réussir, il atterrit lourdement sur le dos après que le sourcier l'eût envoyé voler dans les airs. Les autres porte-paroles reculèrent d'un ou deux pas. Posant un pied sur le rebord du trône, Richard croisa les mains sur son genou et se pencha vers le sage.
« Allons, pur esprit,
dis-moi comment, en tournant ton regard vers l'intérieur de toi-même, tu as soudain appris à faire du fromage. Parle, j'ai hâte de t'entendre. »
« Mais ce n'est pas une question équitable. »«
Vraiment ? Pour toi, il n'est pas équitable de te demander si tu es capable de subvenir à tes besoins ?
Un oiseau qui ne sait pas attraper les vers est condamné à mourir. C'est une règle fondamentale et c'est pareil pour les êtres humains. »
« Assez de haine. »
« Tu portes déjà un bandeau. Pourquoi ne pas te boucher les oreilles et te fredonner intérieurement une chanson afin de ne penser à rien ?»
Richard se pencha davantage et baissa le ton dans le registre de la menace, pas de la complicité.
« Puisque tu es omniscient, sage, essaie de deviner ce que je vais te faire. »
Le gamin couina de terreur et recula sur son coussin. Callan joua des coudes pour passer entre Richard et Hanson, puis elle s'assit au bord du trône, passa un bras autour des épaules du pauvre gosse qui se serra contre elle pour se réconforter.
« Richard, tu le terrifies. Regarde-le, il tremble comme une feuille. »
Le sourcier retira le bandeau des yeux du gamin, qui le regarda comme s'il allait le manger.
« Pourquoi t'es-tu blotti contre ma femme ?» demanda gentiment Richard.
« Parce que tu allais me faire du mal. »
« Tu espérais donc qu'elle te protégerait ?»«
Bien sûr, tu es beaucoup plus grand que moi. »
« Tu as conscience de ce que tu viens de dire. Tu avais peur et tu voulais qu'on te défende. Est-ce un comportement critiquable ? Est-il mal de rechercher la sécurité, ou de redouter un agresseur, ou encore de demander la protection de quelqu'un d'assez fort pour repousser la menace ?»«
Eh bien, non, je suppose que non. »
« Et si je te menaçais avec un couteau, tu voudrais que quelqu'un s'interpose et te sauve la vie ?»«
Je crois, oui. »
« C'est exactement le sujet de notre conversation. »«
Que veux-tu dire ?»«
La vie. Tu veux vivre, et c'est une noble motivation. Tu refuses d'être tué. Ça, c'est parfaitement justifié. »«
Toutes les créatures veulent vivre. » Un lapin court quand il est en danger, et c'est pour ça qu'il a des pattes puissantes.
Ses longues oreilles et ses jarrets musclés ne lui servent pas à découvrir de l'herbe agréable à brouter. Il doit entendre venir ses ennemis et courir assez vite pour leur échapper.
Un daim grogne quand il est menacé. Un serpent peut utiliser ses sonnettes pour repousser un agresseur. Enfin, un loup hurle quand il veut faire fuir ses adversaires.
Mais si la menace persiste et quand il est impossible de fuir, un daim peut piétiner, un serpent peut mordre et un loup peut attaquer. Aucun de ces animaux ne cherche le conflit,
mais ils savent se défendre quand il le faut.
L'homme est la seule créature qui se soumet volontairement aux sévices d'un prédateur. À cause de son conditionnement, par exemple celui qui te pousse à débiter des phrases que tu ne comprends pas, l'homme peut négliger ou rejeter les valeurs fondamentales de la vie.
Pourtant, tu as eu le bon réflexe en te serrant contre ma femme.
Vraiment ? Oui. Ta philosophie ne pouvait rien pour toi. Alors tu as parié sur sa bonté.
Si j'avais vraiment voulu te frapper, elle se serait interposée pour m'en empêcher.
Tu l'aurais fait ?
Demanda le sage à l'inquisitrice.
Oui, parce que je crois moi aussi à la noblesse de la vie.
Le gamin eut un sourire émerveillé.
Mais ton réflexe, continua Callan, n'aurait servi à rien si tu avais cherché la protection d'une personne conditionnée par ton idéologie. Selon ses préceptes, l'autodéfense est l'expression de la haine. À cause des enseignements pervers de ses philosophes, ton peuple est devenu le complice de ses propres bourreaux.
Je refuse qu'il en soit ainsi,
s'écria le sage.
Nous aussi, dit Callan en souriant. C'est pour ça que nous sommes là. Richard vient de te montrer que connaître la réalité est possible et que c'est indispensable quand on veut survivre.
Merci,
dit l'enfant à Richard, qui sourit et lui ébouriffa les cheveux.
Navré d'avoir été obligé de te terroriser pour t'aider à comprendre que tes propos n'avaient aucun sens.
Je voulais prouver que les choses qu'on t'a inculquées ne te servent pas. Elles ne le peuvent pas parce qu'elles sont irréelles et déraisonnables.
Tu as l'air d'un garçon qui aime la vie, et j'étais comme toi à ton âge. Aujourd'hui, je n'ai pas changé.
La vie est formidable. Dévore-la, belle dent. Regarde-la avec tes yeux et émerveille-toi de sa beauté.
Personne ne m'avait jamais parlé comme ça.
Hélas, je reste toujours à l'intérieur et je n'ai pas l'occasion de voir grand-chose.
Eh bien, avant de repartir, je pourrais peut-être t'emmener faire un tour dans les bois, histoire de te montrer quelques jolies choses. Les arbres, les plantes, les oiseaux. Avec de la chance, nous apercevrons peut-être un renard, et en marchant, nous parlerons un peu plus des merveilles de la vie. Ça te plairait ?
Tu ferais ça pour moi ? Vraiment ?
Bien entendu,
fit Richard avec le sourire qui faisait chaque fois fondre le cœur de Callan. Owen avança et ébouriffa à son tour les cheveux blonds du garçon.
J'étais le sage à une époque, et puis je suis devenu un peu trop vieux.
Le gamin ne cacha pas sa surprise.
Sans blague ? Comme je te le dis.
En ce temps-là, je pensais avoir été choisi grâce à mes qualités, et parce que j'étais le seul à avoir accès à des trésors de sagesse. Je me prenais pour un grand philosophe, figure-toi. Aujourd'hui, j'ai honte de mesurer à quel point j'étais stupide. On m'a appris à réciter des leçons et je n'ai pas eu d'enfance. Les grands porte-paroles me félicitaient de répéter les choses comme un perroquet, et quand je parlais pompeusement aux gens, ils louaient ma sagesse, alors que je ne comprenais pas un mot de ce que je disais.
« C'est la même chose pour moi, »
dit l'enfant. Richard se tourna vers les résistants et les autres Bandakar.
Voilà toute la sagesse à laquelle a eu droit votre peuple. Des idioties répétées par un enfant. Mais vous avez un cerveau qui vous permet de réfléchir et de comprendre le monde. Cette cécité volontaire est une façon de vous trahir vous-même.
Les hommes du premier rang, les seuls que Callan pouvait voir de sa position, hochèrent pensivement la tête. Il semblait un peu honteux, crut deviner l'inquisitrice.
« Le seigneur Rahl a raison, »
dit Hanson. « Jusqu'à aujourd'hui, je ne m'étais pas aperçu que nous étions, eh bien, ridicules. »«
Nous ne sommes pas ridicules, »
rugit un des porte-paroles, le poing levé. Un autre porte-parole, celui au menton pointu, tendit la main et s'empara du couteau accroché à la ceinture d'Hanson. Callan eut du mal à croire qu'elle ne rêvait pas. Comme dans un cauchemar, en effet, elle eut l'impression de savoir ce qui allait se passer sans rien pouvoir faire pour l'en empêcher.
Avec un cri de rage, le porte-parole frappa Hanson et l'inquisitrice entendit la lame riper contre un os. Fou de colère, le porte-parole dégagea le couteau, leva le bras et poignarda de nouveau Hanson dont les genoux se dérobèrent. Une note métallique, reconnaissable entre toutes, retentit.
Reflétant la lueur des bougies, la lame de l'épée de vérité décrivit un arc de cercle dans les airs. Propulsé par les formidables muscles du sourcier, la lame percuta le cou du porte-parole sur le côté gauche, s'enfonça de biais, le décapita et trancha en fin de course son épaule droite. La tête de l'homme, son bras et le couteau d'Hanson volèrent dans les airs, puis allèrent s'écraser contre un mur. Le corps du porte-parole resta un moment debout, puis il bascula sur le côté dans un geyser de sang. Richard braqua son arme sur les autres porte-paroles, au cas où ils auraient l'idée d'imiter leurs collègues. Callan serra le petit garçon contre elle et lui couvrit les yeux d'une main. Des résistants s'affairaient déjà auprès d'Hanson. L'inquisitrice n'aurait su dire s'il était mort ou grièvement blessé, mais les coups avaient été terribles. La tête et le bras du porte-parole étaient tombés près d'une table chargée de bougies. Le poing inerte serrait encore le manche du couteau. Une horrible boucherie en quelques secondes. Tous les acteurs et les témoins du drame en étaient comme pétrifiés.
« Grand porte-parole, »
dit Richard d'une voix qui ne tremblait pas.
« L'un des vôtres a versé le sang, et ce n'était pas celui d'un de vos bourreaux, mais d'un homme qui ne vous a jamais rien fait et qui lutte pour libérer son peuple de l'oppression. »
Callan se leva et vit qu'il y avait à présent une petite foule dans le sous-sol. Voyant Cara approcher, l'inquisitrice attira son attention et lui souffla à l'oreille. « Qui sont ces gens ?»«
Des citadins. Des messagers leur ont appris la libération de Witherton. Quand on les a informés de notre visite aux sages, ils ont voulu venir voir ce qui se passait. Il y en a partout dans l'escalier et à l'étage. Bientôt, on ne pourra plus faire un pas dans la cour. »
La mort de Sid s'inquiétait, car son principal souci, comme toujours, était la protection du sourcier et de la mère inquisitrice. Les propos de Richard avaient secoué les Bandakar, c'était évident. Mais comment prévoir leur réaction? Les porte-paroles avaient perdu toute leur agressivité, sans doute parce qu'ils ne voulaient pas être associés au crime de leurs collègues. L'un d'eux s'écarta des autres et vint se camper devant Callan, qui serrait toujours contre elle le petit sage.
« Je suis désolé, »
dit-il au gamin. Il se tourna vers les autres Bandakar.
Navré, mais je démissionne de mon poste. La prophétie se réalise, et le salut est à portée de nos mains. Selon moi, nous devrions écouter ce que ces hommes ont à dire. J'aimerais cesser d'avoir peur que les soudards de l'ordre nous massacrent tous. »
Il n'y eut pas d'acclamation, mais une approbation silencieuse. Comme si ces gens étaient soulagés qu'on tienne enfin compte de leur désir secret d'échapper à la tyrannie des envahisseurs. Richard s'accroupit près d'Owen. Ensemble, les deux hommes regardèrent des braves gens bander le bras d'Hanson. Le Bandakar s'était assis. Du sang empoissait sa chemise, mais le bandage semblait ralentir l'hémorragie. La blessure était impressionnante, mais sans réelle gravité.
« Il va falloir recoudre la plaie, » dit Richard.
Plusieurs hommes hochèrent la tête. Un vieux Bandakar fendit la foule et se pencha sur le blessé.
« Je sais le faire, »
dit-il simplement.
« Et j'ai les herbes qu'il faut pour préparer un cataplasme. »« Merci, »
dit Hanson alors que certains de ses amis l'aidaient à se relever. Il tituba, attendit un instant, puis se tourna vers Richard.
« Seigneur Hal, merci d'avoir agi comme l'affirment les dévotions que nous vous consacrons. »
Il ferma les yeux.
« Maître Hal nous protège. »
Hanson rouvrit les yeux et sourit.
Je n'aurais pas cru être le premier à verser mon sang pour la cause, et moins encore qu'un Bandakar en serait responsable.
Richard tapota gentiment l'épaule intacte de son ami.
Je crois que nous avons tous opté pour la liberté,
dit Owen en regardant la foule. Tous les Bandakar hochèrent la tête.
Seigneur Hal, comment allons-nous éliminer les soldats qui occupent Northwick?
Richard essuya sa lame sur le pantalon du porte-parole mort, puis il regarda lui aussi la foule.
« Quelqu'un sait combien de soudards compte la garnison de Northwick ?»
Il n'y avait aucune colère dans la voix du sourcier. Depuis qu'il avait dégainé son arme, Callan lisait dans son regard que la magie de l'épée n'avait pas répondu à son appel. Il avait frappé avec ses muscles, sans l'aide de son pouvoir. N'importe quelle lame aurait fait l'affaire.
Si sa démonstration de force avait de quoi rassurer, l'absence de la magie liée à l'arme était inquiétante. Le pouvoir qu'avait toujours soutenu Richard lui faisait défaut, un très mauvais présage qui glaçait les sang de Callan. Les Bandakar se consultaient pour déterminer le nombre de soldats présents en ville. Tout le monde était d'accord pour compter par centaines.
« Non, il y en a des milliers !» affirma un homme.
« En tout cas, 2000 au minimum !»
renchérit une femme.
« Voilà qui fait beaucoup d'ennemis !»
souffla Owen à Richard. N'ayant jamais participé à une bataille, il ignorait à quel point il avait raison, car un militaire entraîné valait facilement 3 ou 4 civils.
« Comment peux-tu être si affirmative ?»
demanda Richard à la femme.
« Parce que je travaille dans l'équipe qui prépare les repas des soldats. »«
Vous faites la cuisine pour les envahisseurs ?»«
Oui, ils sont bien trop paresseux pour s'en charger eux-mêmes. »«
Quand dois-tu aller au travail ?»«
Je devrais déjà y être. Il faut préparer le ragoût de demain et, comme d'habitude, nous passerons la nuit à faire du pain, des biscuits et des omelettes pour leur petit déjeuner. »
Connaissant les soldats de l'ordre, Callan songea qu'il devait être ravi qu'on les chouchoute ainsi. Richard se plongea dans une profonde méditation. Avec des combattants inexpérimentés, vaincre 2000 soldats professionnels serait impossible. Il fallait contourner le problème, pas l'attaquer de front. Le sourcier tapota le bras de l'homme qui pansait la blessure d'Hanson. « Tu as des herbes, ai-je cru comprendre ? Es-tu versé en herboristerie ?»
« Pas vraiment, mais je sais préparer des médicaments de base. »
Callan fit la grimace. Un instant, elle avait espéré que ce Bandakar saurait reproduire l'antidote.
« Peux-tu te procurer du muguet, de l'if commun, du tulou, de la ciguë et du laurier rose ?»«
Ce sont des végétaux très faciles à trouver dans nos forêts. »
Richard regarda ses résistants de la première heure.
« Nous devons éliminer les soldats ennemis. » « Moins nous nous battons pour y parvenir et mieux ce sera. Profitons de la nuit pour quitter la ville et aller cueillir ces plantes. »
Le sourcier tendit une main vers la femme qui cuisinait pour les soldats. « Tu nous montreras où vous préparez ce fameux ragoût. Demain matin, nous vous apporterons des ingrédients supplémentaires. Avec ce que nous ajouterons au rata, les soldats seront très malades quelques heures après le repas du soir. Nous ne mettrons pas le même poison dans tous les chaudrons, afin que les symptômes soient différents. » Si nous nous y prenons bien, les 3/4 des hommes seront morts avant d'avoir compris ce qui leur arrive. Pendant la nuit, nous achèverons les agonisants et nous tuerons ceux qui auront jeûné pour une raison ou une autre. Agissons intelligemment et Northwick sera libéré de l'ordre impérial sans avoir eu besoin de le combattre. La défaite de l'ennemi sera totale et nous n'aurons pas perdu un seul homme. Un long silence suivit cet exposé. Puis des sourires apparurent sur les lèvres des Bandakar qui recouvraient enfin l'espoir. Bouleversés à l'idée d'être de nouveau libres, beaucoup avancèrent et vinrent raconter en quelques mots tout ce qu'ils avaient enduré. Des êtres chers violés, tués, déportés ou assassinés. Une chance de vivre s'offrait à ces pauvres gens, et ils ne lui tourneraient pas le dos. Leur calvaire pouvait cesser, et ils étaient prêts à tout pour qu'il en soit ainsi.
« Ça détruira notre mode de vie, »
dit un homme, sans aucune amertume, mais avec une sincère stupéfaction.
« Le salut est à portée de nos mains, »
lui répondit une femme dans la foule.